Aujourd'hui, nous avons la lecture de l'épître de Saint Jacques qui nous met en garde quant à ceux qui écoutent la parole mais ne la pratiquent pas. Il faut faire très attention car le Seigneur nous dit que celui qui n'épouse pas vraiment la loi de la liberté du Christ, c'est-à-dire les commandements du Christ d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, doivent être incontournables et si on ne fait pas cela, la grâce de Dieu ne descend pas. Donc il faut faire très attention à cela, de purifier nos cœurs, il faut purifier notre esprit, purifier nos corps, s'ils ont encore une image lointaine, mais quand même une image de la Sainte Trinité en nous, de ce que nous devons pratiquer, cette purification, afin de pouvoir obtenir la loi de liberté, qui l'accomplissement de la loi, qui est celle de l'Ancien Testament, certainement les 10 commandements de Moïse, mais aussi les commandements que le Christ nous a donnés et qui se résument tous dans celui, ces 2 commandements, aimer Dieu, c'est-à-dire aimer Dieu vraiment, aimer son prochain vraiment en acte, c'est-à-dire le Saint Jacques nous le dit d'une manière étonnante mais tellement vraie, réfréner notre langue qui est souvent le malheur de nos communautés et du monde, que personne ne réfrène sa langue, ceux qui ne réfrènent pas leur langue entrent dans un système qui souvent détruit l'autre et le cœur se pourrit, l'esprit se pourrit, et parfois même les conséquences c'est que le corps lui-même, par la perte du discernement, tombe dans n'importe quoi. Donc il faut pratiquer, que personne ne trompe ainsi son propre cœur, sinon la religion est sans valeur. Donc n'est pas relié à Dieu, on perd la relation à Dieu. La religion pure et sans tâche devant Dieu le Père, la voici, c'est s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse, et demeurer sans reproche en se gardant du monde, c'est-à-dire du monde qui nous entoure. Le Seigneur nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Tout cela pour dire que la vie chrétienne est une vie d'engagement. S'il n'y a pas d'engagement, on ne peut pas être des chrétiens seulement du dimanche et imaginer que uniquement parce que on accomplit certains actes qui sont les actes quotidiens de tout chrétien, c'est-à-dire la prière du matin, du soir, les prières dans la journée, pour certains le chapelet, on peut faire tout ça, même assister à la messe du dimanche. Et si on ne fait pas la relation de charité que le Seigneur demande, c'est une religion vaine, le Seigneur le dit lui-même. Donc il faut faire très attention à cela. Notre vie chrétienne doit être sérieuse et engagée. Le Seigneur nous prévient de cela. Donc il faut faire très attention. Le Christ, quand il monte sur la croix, ne fait pas semblant. Il assume la souffrance humaine, il traverse une souffrance incroyable et cette souffrance ne retire jamais son amour. C'est-à-dire que c'est le sacrifice parfait dont la messe est le renouvellement non sanglant, mais chaque fois que nous célébrons la messe, nous célébrons vraiment un sacrifice très important qui est le sacrifice, le salut de tout homme. Car ce qui était en nous le péché peut, si nous conformons à cette vie chrétienne dont parle Saint-Jacques, se transformer en miséricorde. Sinon, il n'y a pas de miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde, qui se trouble, qui met sa langue au service du mal. Notre Père nous le dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Donc c'est là une sorte d'invitation que le Christ lui-même, dans le magnifique Notre Père, nous invite à faire cette démarche importante du pardon, afin que nous soyons aussi pardonnés. Et donc, on ne peut pas dire que l'on a pardonné à quelqu'un si la langue continue à faire ce petit mouvement qui trahit la vérité du Christ, qui demande de réfréner cette langue et donc que le pardon soit complet. C'est-à-dire il faut éviter de parler des autres en mal, c'est une chose très importante. Le Christ, quand il monte sur la croix, il fait vraiment un sacrifice parfait. Son amour ne se retire pas du tout pendant cette souffrance, lui qui aurait pu faire venir des légions d'anges, comme il le dit lui-même, à son secours. Il traverse la souffrance humaine et il la traverse avec une patience et une douleur infinie. Et il a ses paroles. Je voudrais en parler maintenant, car c'est une chose que peu de gens savent. il prononce cette parole Elohim, Elohim, lama sabachthani, en hébreu, liturgique, évidemment, là il parle pas en araméen, il parle l'hébreu liturgique de son époque, c'est le psaume 22 de David, où il dit Elohim, Elohim, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et les gens qui ne comprennent pas, qui sont autour, certains disent il appelle Élie, enfin Dieu va venir le délivrer, qui descend, on se moque de lui, on dit qu'il descend de la croix puisque il invoque le nom de Dieu et que lui-même a prétendu qu'il était Dieu. En réalité, il s'agit du psaume 22, et comme tout bon juif de l'époque, en mourant, il récite ce psaume de David où il y a une espérance qui est donnée à la fin, évidemment, le Seigneur n'abandonne jamais et procure évidemment le salut à ceux qui se tournent vers lui. Mais au verset 6, il y a quelque chose de très intéressant où le Seigneur dit « Je suis traité, non pas comme un homme, mais je suis comme un ver ». Alors en hébreu, il y a deux mots pour le mot ver, et curieusement, celui qui est utilisé n'est pas le mot rouma, qui se dit en hébreu rouma, le ver de terre, le mot qui est prononcé est le mot taula. Alors c'est un ver spécial, c'est très intéressant, vous allez voir pourquoi, j'espère. Le taula, c'est un ver qui sort de terre, qui vit dans les herbes, et il finit par monter sur un arbre, et il se colle au bois, la maman se colle au bois, et elle se fait une sorte de carapace, et elle sort, c'est là qu'elle fait ses petits, et ses petits la dévorent. Elle fait le sacrifice de sa vie pour que ses petits puissent surgir. On l'appelle le ver écarlate, cramoisi en hébreu, parce que c'est le ver qui, dans cette manifestation où les petits mangent la mère, il y a une sorte de couleur qui sort de ce ver sur l'arbre et qui fait une grosse tache rouge autour, qui est une couleur de cramoisi que l'on utilisait curieusement pour faire la teinture du tabernacle de Jérusalem et des habits du grand prêtre. Et donc vous voyez, on n'a pas utilisé le ver de terre, qu'on penserait que Jésus s'identifie au ver de terre, mais il s'identifie au taula, c'est-à-dire ce ver qui grimpe sur l'arbre, cette maman qui se greffe sur l'arbre, se colle sur l'arbre, on ne peut pas penser à l'arbre de la croix, évidemment, par analogie, et elle se couvre de rouge, elle répand une sorte de couleur rouge qui sert de la colorier, dont on se servait liturgiquement pour le temple du tabernacle, pour la tente du tabernacle et pour les vêtements du grand prêtre, c'était une couleur écarlate, évidemment, cramoisie. Et le Christ utilise ce mot de taula dans le psaume de David, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas penser, évidemment, à celui qui monte sur la croix et donne sa vie pour nourrir ses petits, c'est-à-dire tous ceux qui se nourriront du Christ et de la miséricorde de Dieu par son sacrifice. Vous voyez, le sacrifice du Christ, il est illuminé par ce verset 6 du psaume 22, où Jésus commence « Elohim, Elohim, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qui se termine par l'espérance, mais qui passe par le sacrifice du Taula, c'est-à-dire le Christ s'identifie à ce vers. Je ne suis plus un homme, je ne suis pas considéré comme un homme, mais je suis considéré comme ce ver. Ce ver, c'est le taula, celui qui s'accroche à un bois d'arbre et après nourrit ses petits en perdant la vie. Vous voyez, c'est très intéressant. Donc, c'est la Bible, quand on creuse, il faut des 2-3 vies pour étudier toutes ces choses-là, mais on découvre des choses étonnantes. Et je vous les livre aujourd'hui, c'est très intéressant. Le sacrifice, donc tout. Quand on suit le Christ, le Christ dit celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. C'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes invités à la notion de sacrifice. Et la messe est le sacrifice du Christ. C'est dans toute la liturgie, au moins dans la liturgie traditionnelle, on le trouve dans la vieille messe. Le sacrifice est partout. Il est en permanence évoqué depuis l'offertoire jusqu'à la consécration, où le sacrifice est partout. C'est vraiment ce sacrifice du Christ que nous révélons d'une manière non sanglante, mais que nous fait vraiment ramener au pied de la croix avec ce sacrifice. Et ce sacrifice du Christ, il nous est demandé de le faire nous aussi en suivant le Christ sur la croix, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Comment peut-on connaître Dieu et pendant, comment peut-on connaître son prochain? Comment peut-on connaître le Christ? Comment peut-on se rapprocher de la Sainte Vierge et des saints? Ignoti non, le latin dit ignoti non oreo, ignoti non cupido. Ce que je ne connais pas, je ne l'aime pas et je ne le déteste pas. C'est donc l'approche de l'autre qui permet de fabriquer l'amour. On ne peut pas aimer vraiment si on ne se rapproche pas. Et notre religion n'est pas simplement une religion intellectuelle, elle est une religion de la présence de Dieu, et que cette présence de Dieu, nous devons la rechercher. Et ce n'est pas par nous-mêmes que nous entrons dans l'amour de Dieu, mais par notre bonne volonté, c'est par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, que nous pouvons avoir cette proximité avec Dieu et connaître vraiment Dieu. Or, le chemin ne peut se faire que dans la grâce, et cette grâce, je vous le disais tout à l'heure, elle est dans la bonne volonté. C'est pas tout le monde est pécheur, évidemment, mais cette bonne volonté nous permet d'accéder à la grâce de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler sur des cœurs qui sont pollués par la mauvaise langue ou par le manque de charité. Donc toute notre vie, hélas, ou plutôt, pas hélas, parce que c'est la nature même des choses que nous a appris notre sainte religion, le sacrifice est indispensable. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Le Christ nous le montre sur la croix, il le montre dans toute sa vie. Et lui-même, qui était Dieu, n'a pas, nous dit l'Écriture, n'a pas dédaigné, abandonner sa position auprès de Dieu et venir s'incarner. Il s'incarne avec l'idée du sacrifice. Il fait de sa vie un sacrifice. Il est sans arrêt sur la brèche par ce sacrifice où il contrarie ce que le monde cherche. Le diable lui-même, quand il tente Jésus dans les 40 jours du désert, qu'est-ce qu'il lui propose? Il lui propose d'abandonner le sacrifice. Tu as faim, je vais te donner des pains, transforme ces pains. Il utilise d'ailleurs l'écriture sainte pour tromper, il essaie de tromper le Christ avec l'écriture sainte. Donc méfions-nous aussi des interprétations de l'écriture sainte quand elles ne vont pas le sens dans un certain sens. Et quelle est la garantie? C'est quand même la tradition de l'Église et depuis 20 siècles qui a interprété les écritures. Et donc nous avons la suite des apôtres, du Christ des apôtres et de ce que l'Église a enseigné, nous avons le chemin que nous devons suivre. Méfions-nous des interprétations où, par exemple, on voit, par exemple, je ne fais pas du tout une attaque contre les protestants, mais les protestants, ils ont des croix, mais ils enlèvent le Christ dessus. Ils ne veulent pas voir le Christ en croix. Ils veulent la croix, mais sans le Christ. Vous voyez, il y a des choses très étonnantes. Il faut regarder comment on se positionne par rapport au sacrifice. Et il refuse le sacrifice du Christ tel que l'enseigne notre vieille religion dans la Sainte Messe. Et ils en font un repas communautaire. Oui, mais ce n'est pas le sacrifice du Christ tel qu'il nous a été enseigné. Et cet amour du Christ, quand nous nous approchons du Christ, nous devons comprendre la manière dont le Christ a aimé jusqu'au bout. Et c'est une leçon pour nous que si nous voulons connaître Dieu, c'est en connaissant Dieu à travers justement son infini abandon dans le sacrifice qui montre que l'amour de Dieu est inconditionnel et qu'il nous apporte la miséricorde. Et là, on peut commencer à comprendre qui est le Christ. On peut commencer à comprendre qui est la Sainte Vierge. Vous voyez, on parle toujours de ces choses. Si on oublie le sacrifice qui est au milieu de toute la vie chrétienne, regardez la Sainte Vierge, on dit, ah oui, elle n'est pas co-rédemptrice, on définit ces choses aujourd'hui. Ah, le sacrifice de la Sainte Vierge au pied de la croix, il est total. Toute la vie de la Sainte Vierge a été pour le Christ. Je suis la servante du Seigneur, elle l'a fait jusqu'au bout. La communion des saints, c'est ceux qui ont accepté de se sacrifier dans leur vie pour prendre la croix du Christ, et Dieu sait si ils ont donné, tous les saints ont donné dans un sacrifice. Et il n'y a pas de saint sans sacrifice. Donc notre vie chrétienne doit s'inspirer de cela et accepter, dans l'amour que nous donnons à Dieu, à notre prochain, le sacrifice. Quelqu'un a besoin de nous, il faut faire ce sacrifice. Si on ne le fait pas, on est mauvais chrétien parce qu'on reste dans l'égoïsme et on ne va pas et on pollue en quelque sorte la possibilité de la grâce de Dieu. Et celui qui fait cela, il obtient par grâce de Dieu un éclairage qui lui permet de comprendre qui est Dieu et comment Dieu se tourne vers nous dans la grâce. Et cette proximité fait qu'on a des âmes d'élite qui, à un moment, comprennent véritablement à qui ils ont affaire. À Dieu, au Christ, à la Sainte Vierge, aux saints, quand se tournent vers eux dans la communion des saints. Mais nous voyons partout l'idée du sacrifice. Et quand on est le prêtre, il faut relire le canon de la vieille messe traditionnelle, ce vieux canon qui dit tout. Tout l'enseignement de la vie chrétienne est dans le canon de la messe de Saint-Pie V. On a fait d'autres prières, bon, c'est comme ça. Il ne faut pas non plus juger et dire du mal. Mais nous, nous avons là, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, là, c'est l'hostie sainte en pur. Et on demande que le sacrifice, par Saint-Michel, celui qui présente à Dieu le sacrifice, qui peut être Saint-Michel, qui peut être aussi, d'après certains pères de l'Église, l'ange gardien lui-même de Jésus. Jésus avait un ange gardien, comme il avait la nature humaine. Donc, il est présenté le sacrifice de Dieu, présenté à Dieu par son ange gardien ou par Saint-Michel. Voyez, c'est tout ça, c'est l'amour. Et quand on vous lit le canon de la messe, on a entièrement toute la vie chrétienne. La prière pour les vivants, la prière pour les défunts. Nous supplions Dieu de nous agréger au salut. Nous prions Jésus nous savons exactement les paroles de Jésus qui, par l'Esprit Saint, vient sur nos autels, par la puissance de l'Esprit Saint. Et nous avons les prières pour les morts. Et nous avons ensuite la prière pour l'Église, pour que tous ceux qui se tournent vers le Christ et qui acceptent de participer, parce que nous participons au sacrifice du Christ, et bien ceux qui auront mangé et bu le pain sacré et le calice précieux reçoivent le salut. Mais tout ça, c'est une affaire d'amour. Et lorsque nous nous tournons vers le Christ, nous ne pouvons vraiment aimer le Christ que si nous le connaissons. Si nous ne connaissons pas le Christ, nous ne pouvons pas dire que nous l'aimons. Et si nous voulons l'aimer, il faut passer par ce sacrifice. Donc le sacrifice du prochain conditionne l'octroi de la grâce, et le sacrifice pour Dieu, c'est chacun de nous, au secret de son cœur, qui doit purifier jour après jour sa vie, afin que nous puissions, comme le dit l'Évangile aujourd'hui, être dans les commandements du Christ qui procure la perfection à laquelle le Christ nous demande d'arriver. Nous n'y arriverons jamais, personne n'arrive à la perfection. Nous y arrivons par le Christ. C'est par lui, en lui, par lui, avec lui et en lui, que nous pouvons obtenir la possibilité d'atteindre ce moment du perfectionnement que nous n'attendons jamais, mais qui est toujours un idéal. Et c'est dans cette recherche idéale que se loge la grâce du Saint-Esprit. Alors, dans les églises orientales, on a beaucoup plus prié le Saint-Esprit. On n'a pas bien vu dans les églises occidentales, souvent, la puissance du Saint-Esprit. On le reconnaît aujourd'hui, maintenant, on le met beaucoup plus en valeur. Le Saint-Esprit, ce sont les énergies de Dieu, de même que le Christ est venu de Dieu, comme il le dit ici, je suis venu de Dieu. Et le Saint-Esprit est Dieu, et c'est une hypostase. On ne peut pas trop... Tous les docteurs de l'Église se sont épuisés à expliquer à Sainte Trinité, c'est la quadrature du cercle, donc notre raison contrariée. Ce que nous est révélé, c'est révélé par le Christ, c'est révélé par les évangélistes et les apôtres. Nous devons le prendre comme un donné révélé de la foi, de même que toute la Bible annonce la venue du Messie, c'est-à-dire du vrai Messie d'Israël, pas celui qu'on attend aujourd'hui ailleurs. Le nôtre, c'est le vrai, il est venu, et toutes les Écritures vont vers cela. Vous voyez, je vous ai raconté cette histoire du taoula, du verre cramoisi, du psaume 22. Vous voyez, tout indique le Christ, 40 prophéties. Et aujourd'hui, nous avons la conscience de cela, mais tout le christianisme est à base d'un sacrifice. Un don de Dieu qui nous donne la vie, le choix de la liberté humaine et contre les mauvais choix de la liberté humaine qui étaient inévitables parce que l'homme ne voulait pas des petits chiens, il voulait des hommes libres et il nous a mis devant la liberté. Là où l'exercice de la liberté s'est mal fait, le Seigneur a encore poursuivi de son amour, mais il y a eu un prix, le sacrifice du Christ et le sacrifice de chacun de nous qui, pour purifier sa vie, a l'obligation, pour connaître véritablement qui est Dieu et à qui il a affaire, quand il s'adresse à Dieu, quand il s'adresse au Christ, ou à la Sainte Vierge, ou au Saint, ou même à tous ceux qui sont dans l'invisible. Le prêtre au début, quand j'encense l'autel, j'encense trois fois évidemment le Seigneur qui est présent dans le tabernacle. Ensuite j'encense en droite pour les trônes, les dominations, tous les esprits célestes qui sont autour de l'autel. C'est symbolisé par évidemment l'icône de Saint Michel et des saints anges. Et ensuite, il y a évidemment, à cause de cela, étant censé l'icône de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, révélation de Dieu, la croisature du cercle incompréhensible dans son essence, évidemment pour nous, mais qui est révélée par le Christ. Et cette parole du Christ, eh bien, c'est les miracles qui sont venus derrière. Le Seigneur a fait de nombreux miracles et tous les saints de notre histoire depuis 20 siècles ont prouvé la vérité de notre sainte religion par les miracles qu'ils ont faits. Donc, lisons la vie des saints et nous comprendrons mieux ce qu'ils ont fait et ce que Jésus-Christ demande aux saints et ce que nous devons nous-mêmes pour nous sanctifier, c'est-à-dire la purification du cœur qui est une obligation. Notre cœur, Dieu l'aime, il vient en nous dans la Sainte Eucharistie, et il vient dans un cœur qui n'est pas parfait, mais quand il est de bonne volonté, nous recevons la grâce de Dieu. C'est comme ça. La confiance, c'est le beau mot révélé à Sœur Faustine, Sainte Faustine maintenant, parce qu'elle a été canonisée. Jésus, ou femme de pied, Jésus, j'ai confiance en toi. Cette confiance nous rapproche de Dieu, mais n'oublions jamais, comme nous le dit Saint Jacques aujourd'hui, qu'il faut réfréner sa langue et aider son prochain, parce que sinon, chaque fois que nous tournons vers le Christ et que nous le faisons sans cette condition qui est le désir d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, c'est ce désir qui nous rapproche de Dieu et que nous, lorsque nous approchons de Dieu, nous-mêmes qui sommes imparfaits, nous mesurons l'amour de Dieu dans notre imperfection qui nous dit « Moi, je te pardonne, mais va et ne pêche plus l'obligation de la purification du cœur. » Sinon, nous sommes dans une fausse religion, alors veillons et prions pour que nous puissions les uns et les autres arriver à cette perfection inatteignable, mais que dans laquelle se loge la grâce et le salut par le sacrifice du Christ, parce que cette hostie sainte, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, la perfection, je le dis, c'est pas que le sacrifice, c'est le bouquet esthétique que Dieu offre dans son offrande qu'il fait aux hommes et à Dieu, ce bouquet esthétique, cette magnifique bouquet de fleurs qui correspond aussi au magnifique bouquet de fleurs de la co-rédemptrice du monde, la Sainte Vierge, et au petit bouquet de fleurs que les saints ont à envoyer vers Dieu, les vies difficiles traversant la croix, et ils offrent à Dieu le bouquet de leur vie dans le sacrifice qu'ils traversent et auquel nous sommes nous-mêmes invités à ramasser quelques fleurs dans la nature sauvage de nos vies pour faire un petit bouquet au Seigneur, le bouquet où nous devons aussi ne pas oublier d'offrir le sacrifice et quand nous l'apercevons, le traverser avec succès, c'est-à-dire ces petites offrandes que nous devons faire au Seigneur des croix de notre vie. Là où il n'y a pas ces petites croix, faisons-nous du souci. Si elles sont là, remercions le ciel, c'est souvent le chemin de la purification de notre cœur, de notre esprit et de notre corps. Encore une image de la Sainte Trinité, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, comme c'est dit dès le début de la Sainte Écriture. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.